Je suis Guillaume Vallet, je suis professeur de sciences économiques à l'Université Grenoble-Alpes. Je suis responsable du master évaluation et management des politiques sociales. Et puis, je travaille en particulier sur l'économie politique du corps. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis beaucoup intéressé aux pratiques de développement musculaire qu'on voit fleurir aujourd'hui dans les villes comme dans les campagnes.
Et vous êtes vous-même bodybuilder?
Moi, je pratique la musculation de façon intensive depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 44 aujourd'hui. Et depuis 5 ans, je pratique aussi certains sports de combat, et en particulier le Krav Maga depuis 2 ans. Je fais partie d'une génération qui a été bercée dans son adolescence par les mangas où on avait déjà des corps musclés. Je fais partie de la génération qui a été bercée par les films de Stallone, de Schwarzenegger, de Van Damme. Donc là, encore plus fortement, je dirais, on retrouve cette culture du muscle. Et puis le déclic, c'est que j'ai eu une période où j'étais assez maigre dans mon adolescence parce que j'ai eu une maladie qui est la tuberculose. Cette maladie affecte gravement le système immunitaire, et à la fin de cette maladie, j'ai vraiment voulu, on va dire, prendre une revanche sur mon corps et concrétiser ce projet de développement musculaire. Donc un jour, j'ai franchi la salle de musculation de ma petite ville de province qui était Albertville, salle qui était tenue par un ancien bodybuilder professionnel, et j'ai tout de suite été fasciné par l'ambiance, par le cadre, par ses corps en fait, et j'ai tout de suite voulu être comme ça. Le fait de me porter sur le corps qui avait été affecté, pour moi, me paraissait, je dirais, logique, me paraissait aussi, même symboliquement, comme une forme de revanche. Je voulais transformer mon corps, mais pour me transformer moi-même, et quelque part aussi sans doute envoyer un message aux autres. Donc c'était un processus social. J'ai toujours considéré, à partir de mes études en économie, que finalement cette matière qui était le corps pouvait correspondre à une analyse économique, parce que on a cette ressource d'emblée à la naissance qui nous fait comprendre rapidement que ce corps nous appartient, qu'on est dans la logique de la propriété privée, de la liberté, et qu'on peut faire fructifier cette ressource-là sur un marché. Ça peut être le marché du travail, ça peut être le marché des rencontres diverses. Et dans ce cadre-là, le profit émerge de la valorisation par les autres. Donc le corps se transforme en capital. Mais pour en arriver là, il s'agit vraiment de l'entreprendre au mieux. Et pour l'entreprendre au mieux, c'est là qu'on applique les principes, je dirais, des grandes entreprises qui ont façonné le capitalisme. Il faut planifier une production, il faut savoir comment on va utiliser la matière. Alors la matière corps, mais aussi la matière alimentation, la matière nutriments. Il va s'agir de l'entraîner selon certaines techniques, avec des machines. Donc c'est un ensemble de décisions qui permettent de transformer la matière, de la valoriser en capital et d'en espérer un profit.
Guillaume Vallet, vous avez écrit un livre en 2022 aux éditions L'Échappée qui s'appelle « La fabrique du muscle ». Pourquoi ce terme « fabrique » ?
Le titre « La fabrique du muscle » a deux sens. Le premier sens, c'est renvoyer à ce processus de production qui fait qu'on va chercher à optimiser le corps, à rationaliser le corps, à faire en sorte d'en tirer le maximum, donc en s'organisant. Ça, c'était le premier sens, plutôt le processus de production. Et puis le deuxième sens, c'est réfléchir à ce lieu spécifique qui s'apparente à une fabrique au sens d'usine, au sens d'atelier, dans lequel on va trouver des machines particulières, on va trouver des personnes qui ont un but commun, où finalement on a des îlots spécialisés, on va usiner le corps. Cet élément lié au lieu me paraissait aussi fondamental pour bien comprendre le lien entre corps et système capitaliste. Quand des personnes vont trouver des lieux où des formes de sociabilité existent, parce que des gens sont dans la même logique, ont envie de partager des choses en commun, et c'est le cas de l'univers de la salle, ils vont être intéressés, ils vont y aller, et ça c'est un premier facteur important de réponse à cette individualisation qui caractérise le capitalisme d'aujourd'hui, celui que j'appelle le capitalisme des vulnérabilités. Le deuxième point important du capitalisme, c'est le fait que ce système économique est quand même né avec une nouvelle considération du travail. Le travail, il est au cœur de l'activité, il est au cœur de la production, mais il est aussi au cœur de la construction identitaire des individus. Donc, si vous voulez, la salle, elle est indispensable pour certains individus parce qu'elle va donner un sentiment vraiment de maîtrise du travail, d'accomplissement par le travail, que ces personnes parfois n'ont pas dans leur travail professionnel. Donc c'est important, je dirais, dans une logique un peu de substitution. Ce qu'on ne trouve pas dans le travail professionnel, on va le trouver dans le travail de la salle, en s'organisant, en produisant quelque chose comme on veut, ça leur parle. Mais ça peut aussi être dans une logique de complémentarité. Quelqu'un qui s'organise, qui a des résultats tangibles à la salle, va pouvoir dire, j'ai eu ce que je voulais, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait, le corps obtenu en est la preuve. Et si je suis capable de le faire à la salle, je suis capable de le faire dans mon travail, et vice-versa. Donc on a plutôt ici une complémentarité, mais ces deux exemples nous montrent bien l'importance du travail qui est associé à cette culture du muscle. Je pense que pour beaucoup de pratiquantes et de pratiquants, c'est très très important de retrouver un sens par le travail du corps dans le monde d'aujourd'hui. Depuis le début des années 80, l'individu est davantage renvoyé à lui-même, il est sommé de se construire, de se réaliser un projet d'entrepreneuriat, parce qu'on fait face à de nouvelles vulnérabilités. Le muscle qu'on développe aujourd'hui n'est pas pour moi uniquement esthétique, il a aussi une fonction, c'est-à-dire pouvoir se protéger, pouvoir faire face à une attaque, pouvoir se défendre rapidement, pouvoir faire une traction rapidement. Donc tous ces facteurs-là montrent un retour d'un muscle un peu plus fonctionnel, et le fait que des activités comme le crossfit, le street workout soient assez en vogue, pour moi illustre bien ce changement. Deuxièmement, depuis la fin déjà du 19e siècle et depuis le début du 20e siècle avec l'urbanisation, on a vu, en particulier aux États-Unis, se constituer de nouvelles modes de consommation où le corps était présenté comme une voie de salut pour être en meilleure santé, pour être dans une logique nouvelle d'épanouissement de soi. Donc ça passait par la culture physique déjà à l'époque, mais ça passait aussi par le bronzage qui a eu de plus en plus une connotation positive à partir de ces années-là. Donc on est à la fois le produit aujourd'hui d'une mouvance historique qui démarre à la fin du 19e siècle, qui s'est renforcé après la Deuxième Guerre mondiale, où le corps santé doit être investigué, où l'individu doit prendre soin de lui et se tourner vers certaines formes de pratiques. Et puis des éléments plus récents, en particulier des années 80, où ce capitalisme des vulnérabilités émerge et incite à se tourner vers son corps pour se protéger. Et encore plus récemment, depuis 15 ans, l'influence très forte des réseaux sociaux qui, je dirais, démultiplie cette culture de l'image. Et là, encore une fois, incite fortement les individus à se tourner vers leur corps pour montrer qu'ils sont capables d'en faire quelque chose et de le faire savoir aux autres. L'univers de la salle de sport a fortement évolué et rapidement évolué depuis 20 ans. On a vu se diversifier très fortement l'univers de la salle, les salles low cost, les salles premium, les salles de sport de combat, les salles crossfit, des salles qui font un petit peu tout. Donc du coup, vous avez eu un appel d'air très fort, et ça a été très très important dans la mentalité des Français et en particulier des Françaises, qui sont devenues de fait des pratiquantes très assidues et très nombreuses. Elles cherchent à avoir déjà un espace à elles, c'est un lieu, un moment qui permet justement de s'isoler, d'avoir d'autres formes de sociabilité. C'est un lieu aussi qui permet de répondre à certaines formes de vulnérabilité autour de la santé, mais beaucoup d'engouement aussi autour des pratiques de combat, parce qu'il y a une véritable demande. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui est massif. C'est un phénomène qui touche aujourd'hui tout le monde parce qu'on est dans ce capitalisme des vulnérabilités. Après, face à cette diversité de l'offre, on voit qu'on a quand même malgré tout, je dirais, des segments de marché qui sont sociologiquement différents. On va retrouver dans le crossfit une pratique qui est plébiscitée par des CSP+, des cadres, des chefs d'entreprise en particulier, qui voient dans cette culture du corps, de la performance, une façon de se dépasser. On va avoir dans certaines salles plutôt de culturisme, relativement plus d'ouvriers, de catégories issues des milieux populaires, idem dans certains sports de combat, parce que la confrontation directe permet finalement de concrétiser une vision du corps qui leur parle davantage. Maintenant, c'est une pratique qui est devenue massive, où les mixités sociales de genre s'opèrent au quotidien. Le capitalisme a toujours fonctionné à partir de systèmes technologiques clés qui sous-tendent le système et lui permettent de se renouveler. Aujourd'hui, ce qui sous-tend le système sur le plan technologique, c'est vraiment tous ces réseaux sociaux. Beaucoup peuvent penser aujourd'hui qu'ils vont devenir influenceurs en vendant des services, des conseils à partir de ce qu'ils font sur leur propre corps. Et là, on voit émerger tout un nouveau secteur d'activité, une nouvelle caste d'entrepreneurs aujourd'hui, et plus largement un nouveau secteur d'accumulation du capital qui passe par les réseaux sociaux et par cette nouvelle forme d'entrepreneuriat autour du corps. On a les phénomènes de coaching, de services autour des techniques d'entraînement, de conseils, mais on trouve aussi des influenceurs autour de la nutrition, autour de conseils alimentaires, autour de conseils vestimentaires. Ils sont là pour prodiguer de l'information à des personnes qui recherchent un développement de leur corps pour répondre à des vulnérabilités. Et ça, c'est un problème parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, autour du corps, vous pouvez avoir des conseils qui sont prodigués par des personnes qui sont non spécialistes, mais si ces idées sont en vogue et sont likées par le plus grand nombre, elles vont avoir plus de résonance que des idées, je dirais, plus avérées de médecins. C'est un des travers de ce processus, parce qu'on peut aller vers des mauvaises informations et finalement créer des problèmes qu'on souhaitait éviter au départ. Et puis, deuxièmement, ça crée beaucoup de frustration parce parce que ces informations qui circulent tout le temps, qui sont likées par le plus grand nombre, en fait, décuplent les désirs potentiels chez les individus. Donc cette logique de l'insatisfaction, cette culture de l'insatisfaction, elle peut parfois être motivante pour certains, parce que c'est ce qui les pousse à aller toujours plus loin, mais d'un autre côté, elle peut créer beaucoup de fragilité, beaucoup de vulnérabilité. L'idée à la base, c'est d'avoir quand même un corps permettant de lutter contre les vulnérabilités et un corps en bonne santé. Or, la logique économique qui sous-tend pour moi le système a tendance à se désencastrer de cet aspect santé et à voir le corps finalement comme simplement un outil de performance. Donc on a effectivement parfois une certaine ambivalence, mais on a tellement envie de réussir son projet, on a tellement envie de développer son corps que parfois le corps nous échappe. Et là, on entre dans une logique plus incertaine où on va commencer à se surentraîner, où on va prendre certains produits, où on va s'isoler des autres. Et tous ces facteurs-là, finalement, nuisent à la santé, je dirais, physique, psychique et sociale.
C'est ce que vous appelez les prises de risque.
Le risque, il est fondamental dans ce processus parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans risque. Et je pense que dans certains cas, on bascule du risque vers l'incertitude parce qu'on entre dans un processus qu'on ne maîtrise plus. Quand, par exemple, on prend certains produits dopants, toute une spirale se met en œuvre et c'est cette spirale qui nous contrôle plutôt que nous contrôlons la dynamique de cette prise de produit.
Mais
je peux comprendre certaines personnes qui ne voient dans leur corps que la seule et unique voie de salut et qui sont malheureusement prêtes à entrer dans un processus qui les prendra in fine, parce que c'est impossible de contrôler le processus de dopage. Plus on en a, plus on en veut, et plus on en veut, plus on en aura, et voilà, c'est une spirale infernale.